Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Tout comme Chanteclerc, qui dans la pièce d'Edmond Rostand pense que son chant matinal peut provoquer le lever du soleil, les militants de la CAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ne cessent de croire que leurs actions peuvent faire reculer la barbarie humaine. Le 28 juin dernier, habités par l'espérance d'un monde sans torture et sans exaction, ils étaient appelés à veiller et à soutenir 10 personnes victimes de la torture de par le monde. À Toulouse, une communauté de veilleurs, unis par et dans la prière, se retrouvait soit au Vieux Temple, soit en l'église Saint-François d'Assise. L'ONG est œcuménique.
Amal Fatih a participé à la révolution de 2011. Mouvement du 6 avril, qui a chassé du pouvoir Hosni Moubarak. Elle s'est ensuite retirée de la politique, puis a épousé Mohamed Lofti, fondateur d'une ONG, qui suit des cas de disparition forcée en Égypte. Amal a été arrêtée l'an dernier pour avoir reproché dans une vidéo aux autorités de ne rien faire contre le harcèlement sexuel. Après 8 mois de détention provisoire, elle est en résidence surveillée, mais vient d'être condamnée à 2 ans de prison. Par ailleurs, pour sa participation au mouvement du 6 avril, elle est accusée d'appartenir à un mouvement terroriste et doit être jugée pour cette incrimination. Sa santé s'est beaucoup dégradée en détention. Il est probable qu'à travers elle, le pouvoir cherche à atteindre l'ONG dirigée par son mari. Prions pour Amal Fatih.
Martine, partie de la CAT depuis une trentaine d'années. Au départ, j'étais dans un groupe qui m'a permis de rencontrer les personnes qui sont autour de moi. Là. Et puis ensuite, j'ai déménagé, je ne suis pas restée dans le secteur. Et maintenant, j'agis à titre individuel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on reçoit des appels, ce qu'on appelle des appels du mois. Et une fois par mois, dans mon secteur, à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, je distribue à la fin de la messe dominicale les feuillets. Et les gens, maintenant, ils se retournent vers moi quand ils n'ont pas eu le temps de prendre la feuille pour que je la leur donne. Mmh. Alors, on espère bien sûr que ces courriers soient envoyés régulièrement. Ouais.
Mmh. Et vous, votre cheminement, vous me dites que ça fait 30 ans que vous êtes engagée à la CAT. Mmh. Il y a eu un facteur déclenchant, une prise de conscience, ou une révolte, une rébellion, ou se dire « je ne peux pas faire autrement ».
Disons que j'avais envie de m'engager dans une association humanitaire. Et un jour, quand j'étais dans l'église Saint-Jérôme, à Toulouse, j'ai vu une affiche de la CAT avec une scène de torture absolument épouvantable. Et donc je me suis dit, voyez, même 30 ans après, quand je repense à cette scène, ça revient. Et donc je me suis dit que j'allais m'engager pour faire au moins quelques petites choses. Quoi. Voilà.
Merci à vous.
Jean, je suis en tant que paroissien de Saint-Vincent-de-Paul, et donc je suis venu pour la veillée de ce soir.
Vous venez chaque année à la veillée de la CAT ?
Par Saint-François, mais je participe, oui, chaque année, oui.
Ce qui fait que le cri qui est lancé par la CAT ce soir et puis chaque jour de cette vie, ouais. C'est quelque chose qui vous interroge, qui vous interpelle, qui vous le bouleverse et qui interroge votre vie ?
Non, mais qui m'interpelle depuis longtemps, oui, c'est ouais. Pas uniquement. oui, bien sûr, depuis longtemps, oui. Mais en tant que chrétien, c'est normal que ça m'interpelle, quoi.
En tant qu'être humain, d'abord, tout simplement.
Peut-être bien, oui. Moi, je le vis en tant que chrétien.
Seigneur, fais-moi.
Alors, l'ACAT a été créée par deux protestantes.
Annick Leroy, responsable de Toulouse Centre.
Qui avait été très retournée, très sensibilisée par une conférence d'un pasteur vietnamien sur les conditions d'enfermement, et d'emprisonnement et de torture au Vietnam. Bon, on sortait de la guerre du Vietnam, hein, pendant la guerre du Vietnam. 74, oui. Et donc, elles ont fédéré un petit groupe œcuménique. Tout de suite, ça a été une association œcuménique. Donc, c'est vraiment de lutte contre la torture en ayant le souci de s'appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mm-hmm. Hein, nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et très vite, c'est une association qui s'est répandue, enfin qui a mobilisé beaucoup. On a été jusqu'à 15 000 personnes adhérents actifs. Voilà dans quel contexte oui. Cela s'est fait. Côté catholique, elles étaient proches notamment de Guy Orange, qui était avocat, enfin qui est maintenant à la retraite et publie régulièrement quelques livres justement concernant le sujet des droits de l'homme. Mmh. Voilà.
Vous dites 15 000 personnes en France ?
En France.
En France, parce que c'est un mouvement international.
Alors, ensuite, petit à petit, mmh. C'est devenu international, notamment au Canada, en Afrique, en Suisse. Alain complète peut-être...
Je crois qu'il y a 28 ACAT dans le monde.
Alain Glaise, responsable régional.
À côté d'ACAT France, ACAT France c'est la sœur aînée, si je puis dire. C'est même c'est la plus active, la plus nombreuse au point du nombre d'adhérents. Ensuite, il y a quelques-unes en Europe, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Italie, en Catalogne, en Angleterre, et puis également en Afrique.
Oui, parce qu'Annick nous disait, une ONG donc fondée sur les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est à la fois un côté très, très humain et également fondé sur les valeurs de l'Évangile.
Oui, l'Évangile de Matthieu, chapitre 25.
Evelyne Bruniquel-Lebeur, militante de base et protestante.
Verset 40, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Une fois, à Lyon, j'assistais à une réunion comme ça, et c'était une présentation de la CAT devant des jeunes, et une Lyonnaise, vraiment, qui était très, très enflammée par ce qu'elle devait dire, elle dit « Notre action s'appuie sur l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et sur l'article 25 de Matthieu. » Donc, c'était assez un très beau lapsus, je trouve. Donc, effectivement, on fait sans cesse référence à Matthieu 25. Et effectivement, là, vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a donc tout un aspect de prière et de vie spirituelle. On a une commission théologique, une commission théologie, pardon, donc qui réfléchit au problème de la violence, hein, sous tous ses aspects, et qui organise éventuellement des colloques et qui publie également un certain nombre d'écrits sur tel ou tel problème lié à la violence.
Mais vous me parlez de violence, ça va au-delà de la torture. Il y a les violences de toutes sortes, il y a également les enfermements, vous occupez également peut-être des sans-papiers, des migrants.
Alors, on a effectivement plusieurs mandats. L'abolition de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ça c'est l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La peine de mort, donc lutter contre la peine de mort. En France, ça y est, le problème est réglé, mais il y a encore pas mal de pays qui pratiquent la peine de mort, de moins en moins. Hein, de moins en moins, c'est très spectaculaire la chute du nombre de pays qui continuent à pratiquer la peine de mort. Et puis également la défense du droit d'asile. On se moque beaucoup des demandeurs d'asile en disant que c'est des réfugiés économiques. Alors c'est vrai que je pense que parmi ceux qui demandent l'asile, il y a des réfugiés économiques, mais il y a des gens qui ont été très maltraités dans leur pays. Et vous savez qu'on estime à 150 000, hein, je dis bien 150 000, le nombre de personnes qui sont en France et qui mériteraient des soins appropriés pour les tortures qu'elles ont subies dans leur pays avant de pouvoir s'en échapper. 150 000 personnes qui auraient besoin de soins appropriés.
Chaque année, plus de 200 personnes victimes de torture voient la fin de leur calvaire grâce à l'action de la CAT. Arrêt des sévices, libération, grâce, procès équitables, sanctions économiques ou politiques sont le fruit de l'engagement de milliers de personnes qui consacrent un peu de leur temps à la CAT.
Les adhérents, comme nous sommes, les adhérents de base, leur principal job, si je puis dire, c'est d'écrire, d'envoyer ce qu'on appelle les appels urgents. Les appels urgents, chaque adhérent reçoit une fois par semaine une proposition de lettre pour intervenir. Vous voyez, là, par exemple, on a une lettre adressée au président de la République du Cameroun, à propos de personnes qui ne sont pas traitées correctement devant la justice, qui ont été emprisonnées à la suite de procès injustes ou qui ont été maltraitées, etc. Voilà. Et vous savez, être emprisonné en Afrique, c'est déjà, a priori, un mauvais traitement, parce que les conditions ne sont pas quand même vraiment extraordinaires. Donc voilà, donc écrire, donc ça consiste à reproduire ce modèle de lettre, à le personnaliser un petit peu en mettant son adresse, en signant. Éventuellement, on peut un petit peu personnaliser la formule de politesse, on peut personnaliser l'entrée en matière, etc. Et puis envoyer une copie à l'ambassade du pays pour être certain que ce courrier ne sera pas perdu, parce que les ambassadeurs sont obligés de transmettre tout ce qu'ils reçoivent. L'autre action, c'est de sensibiliser autour de nous. Donc pour cela, nous avons par exemple ce qu'on appelle les appels du mois. Donc chaque mois, un appel qui est destiné, donc toujours concernant un cas de personnes persécutées, maltraitées, etc. Cet appel est une carte-lettre. À envoyer dans le pays concerné. Ici, voilà, l'exemple que je vous montre concerne le Vietnam. Donc, le petit dépliant sur lequel cette carte-lettre est attachée présente le cas pour lequel on doit intervenir. Voilà, ces dépliants, nous devons les placer dans les églises, dans les lieux de culte, églises, temples, et proposer aux gens donc autour de nous de les prendre. Donc c'est un moyen à la fois d'intervenir pour quelqu'un et en même temps de faire connaître la CAT et son action.
Et justement, de quel poids pesez-vous ? Donc vous informez, vous vous adressez aux ambassades, au gouvernement, mais après ?
Évidemment, le poids, c'est le poids constitué par le nombre de lettres que nous envoyons. Alors c'est quand même quelques milliers. Donc même si c'est quelques milliers, mettons 3 000, 4 000... 5 000, ça fait quand même une masse assez considérable de lettres qui arrivent. D'autre part, nous ne sommes pas la seule ONG à agir. Très souvent, nous avons des cas communs, sans même s'entendre pour cela, avec Amnesty, avec Human Rights Watch, avec d'autres, avec la Ligue des Droits de l'Homme. Nous avons souvent des interventions qui se recoupent.
Salman Al-Houda est un prédicateur religieux très populaire en Arabie Saoudite. Il a 13 millions d'abonnés sur son compte Twitter. Il plaide pour une réforme du régime saoudien, le respect de l'état de droit et la liberté d'expression. Arrêté en 2017, il fait l'objet de 37 chefs d'accusation, dont aucun n'a été rendu public. Après 5 mois passés à l'isolement, enchaîné et menotté, privé de sommeil et de soins médicaux, interrogé de jour comme de nuit, il a dû être hospitalisé. En septembre 2018, le procureur a requis la peine de mort. En février dernier, un procureur saoudien a reporté l'audience pour la troisième fois, selon les indications de son fils sur Twitter. Son arrestation ferait suite à son refus de soutenir publiquement Riyad dans le conflit qu'il oppose au royaume du Qatar. Des militants saoudiens ont déclaré que son frère Khaled avait été arrêté pour avoir révélé l'arrestation de religieux. Prions pour Salman Al-Houda.
Écrire à un prisonnier, c'est briser un peu de sa solitude. C'est briser un désespoir dans lequel ses geôliers cherchent à le maintenir. C'est également envoyer un signal fort aux autorités. Les prisonniers ne sont pas oubliés, les tortionnaires ne resteront pas impunis. C'est ce dont témoigne Antoinette Chahine, libanaise violemment torturée et condamnée à mort pendant la guerre du Liban, Alain Glaize.
Et la CAT et Amnesty étaient intervenus puissamment en sa faveur, en particulier des gens de Dordogne. Mais pas que, hein, il y avait des gens un peu dans toute la France, mais je crois qu'il y avait une équipe en Dordogne qui l'avait particulièrement adoptée. Et elle a écrit un livre souvenir sur cette période, et elle raconte comment le fait de savoir qu'on intervient pour cette personne condamnée, comment le fait de savoir qu'on n'est pas oublié, ça modifie, ça change complètement le moral, ça voilà, malgré les tortures, malgré les... Et elle raconte qu'elle recevait des centaines de lettres et qu'un jour, c'est une camionnette de la poste qui est arrivée avec plusieurs sacs postaux et qui lui a amené ça dans sa prison. Elle avait des centaines de lettres de soutien. Voilà. Donc c'est très important parce que, d'intervenir auprès des autorités. Mais c'est très important pour que les autorités... Parce que les autorités n'aiment pas être mises en lumière sur des pratiques condamnables. Hein. Ils n'aiment pas que l'on sache qu'ils font de telles horreurs.
Hein. Ça doit se passer dans l'ombre.
Tout ça doit... Et alors, ça ne reste pas dans l'ombre. Hein. Ça ne reste pas silencieux, ça ne reste pas dans l'obscurité. Ça vient à la lumière, et ça, les États n'aiment pas ça du tout. Et d'autre part, les torturés, les personnes qui sont maltraitées, se rendent compte qu'on intervient pour elles. Mmh. Et ça modifie complètement leur morale, ça les aide à supporter et à reprendre espoir. Très, très important. Car le bourreau, souvent, son but, c'est de dire « plus personne ne pense à toi, plus personne ne pense à toi, tu n'as que moi comme relation avec autrui ».
Ce que disaient d'anciens prisonniers de aussi bien
Annick Leroy
dans les geôles d'Amérique latine ou dans les pays de l'Est avant les années 90, c'est que lorsque un afflux de lettres arrivait dans les prisons, même si on ne leur disait pas, les conditions de détention se modifiaient de façon très insensible. Ils disaient le pain était un peu moins moisi. On nous insultait un peu moins. Donc, des petites choses qui étaient indirectes, mais ils sentaient très bien. Important, et pour leur morale, c'était très, très important. Et puis, dans le petites choses du quotidien, la soupe un peu plus épaisse. Ça nous paraît un petit peu anecdotique ici, mais quand c'est la seule nourriture qu'on reçoit dans une journée, c'est quand même très important. Mmh. Et cela pendant des semaines. Mmh.
Vous me parlez du Vietnam, vous me parlez de l'Amérique latine, des anciens pays de l'Est, ce qui veut dire que les droits de l'homme sont bafoués sur toute cette planète, alors à des niveaux certes différents, mais aucun pays peut-être n'en est exempt.
Oui, absolument. Donc, on part du principe, de l'observation, que plus d'un pays sur deux pratique la torture de manière systématique. Plus d'un pays sur deux. C'est-à-dire plus d'une centaine de pays, puisque... On a à peu près, pas tout à fait 200, 196 ou 198 États dans le monde, suivant les manières de compter. Bon, voilà.
Présent à l'ONU, quoi.
Voilà. Et plus de la moitié pratique la torture de manière systématique. Ça ne veut pas dire que moins de la moitié ne pratique pas la torture. Hein, ou les mauvais traitements. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'article 5 parle de torture, mais aussi de mauvais traitements. Et en France, par exemple... résider dans certaines prisons, hein, être emprisonné dans certaines prisons, ça relève du mauvais traitement.
Nuit et veille, c'est très fort, ces deux termes. La nuit, veiller. Et c'est dans la nuit qu'il est bon de croire à la lumière.
Oui, c'est un peu ce que disait Annick tout à l'heure. Hein, nous sommes dans la nuit hein, en permanence. Hein, on ne voit pas poindre l'aurore. Hein, c'est vrai qu'on a l'impression que ce combat que nous menons
Vous n'en verrez pas vous-même les fruits, peut-être?
Non, je pense qu'on n'en verra pas les fruits. Guy Orange, qu'on évoquait tout à l'heure, qui a été un président emblématique de la CAT, un président absolument extraordinaire. Guy Orange, en 1988, lors d'un rassemblement mémorable de la CAT au Bourget pour fêter le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait 10 000, on était 10 000 adhérents quand même réunis au Bourget, et il avait lancé ce grand cri: plus de torture en l'an 2000. On se demandait si lui-même y croyait, mais enfin, voilà, c'était... C'est vrai, c'est ce genre de slogan qui... Bon, on sait bien que ça, c'est pas très réaliste, et en même temps, quand même, on se dit, on va quand même faire progresser les choses. Les choses progressent quand même, parce que regardez la peine de mort. La peine de mort... Si on fait une étude statistique sur la manière dont le problème a évolué, disons, tout au long du XXe siècle, on s'aperçoit que les choses n'ont quasiment pas bougé pendant les 4/5 du XXe siècle. Et puis tout d'un coup, alors il y a eu par exemple en 1981 la France, Badinter, hein, Mitterrand, qui ont aboli la peine de mort, mais c'était déjà dans un mouvement extrêmement dynamique. Et à l'heure actuelle, il y a moins d'un tiers des pays dans le monde qui n'ont pas retiré la peine de mort de leur constitution. Ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent systématiquement la peine de mort, parce qu'il y a aussi des États qui ont la peine de mort inscrite dans leur constitution, mais qui finalement n'exécutent plus, ou n'exécutent que vraiment très très peu. Et ça, c'est quelque chose quand même qui fait chaud au cœur. Il y a très peu de retours en arrière. La peine de mort, c'est ajouter de la violence à la violence, et ça ne résoudra jamais le problème de la violence. Jamais.
Malheureusement, on aimerait bien la même progression concernant la réalité de la torture. Parce qu'il y a les textes et ensuite il y a la réalité. Aucun pays n'a la torture inscrite dans sa constitution comme étant une pratique légale.
Et même, je dirais plus... La plupart, 95% peut-être, ou 90% des États ont signé plusieurs conventions internationales qui interdisent la pratique de la torture, et en particulier la pratique de la torture, quelles que soient les circonstances, y compris en cas de guerre ou de terrorisme. La torture, c'est devenu un interdit absolu. Un interdit absolu, au même titre que l'inceste, par exemple. C'est devenu... quelque chose que l'on ne doit pas pratiquer. Et des pays, la plupart des pays, ont signé des textes dans ce sens. Mais malheureusement, au moins la moitié d'entre eux, au moins la moitié, oublient leur signature.
Lors de cette nuit des veilleurs, nous allons prier pour 10 personnes dont toutes les situations sont critiques, je suppose, toutes plus ou moins.
D'Arabie Saoudite, du Burundi, de Chine, du Mexique, d'Égypte, du Cameroun, du Rwanda, du Vietnam, détenu dans les couloirs de la mort au Texas, et donc une autre Vietnamienne, deux Vietnamiennes. Voilà, 10 condamnés, personnalisés, qui viennent de 9 pays.
Et ces nuits de veilleurs, c'est une manière aussi de sensibiliser. Puisque nous sommes à Toulouse, à Toulouse, des chrétiens ou des non-chrétiens d'ailleurs, toute une population, c'est une manière de sensibiliser, c'est un acte de visibilité, cette nuit des veilleurs
Oui, parce qu'on l'annonce particulièrement dans les lieux de culte, quels qu'ils soient. Et donc, tous les ans viennent des personnes qui sont des fidèles et puis des nouveaux, qui ne sont pas militants du tout de la CAT, mais qui sont sensibilisés à cette action, ce temps de prière qui dure une heure environ, où on évoque ces cas, où on prend le temps de prier, d'écouter à la fois la parole de Dieu, souvent un texte d'évangile, mais ça peut être aussi un psaume ou un texte du Premier Testament. Et puis, on évoque donc ces victimes et des prières qui sont écrites aussi bien par des détenus, on est parfois que ce soit des détenus ou dans les couloirs de la mort ou même dans les prisons en France, qui écrivent des prières, des textes de prières qui sont assez bouleversants pour nous qui sommes des gens libres, enfin en liberté au moins. Ouais. Puis on sent qu'il y a une profondeur, une réflexion très importante et un chemin personnel, un chemin d'humanité qui s'est créé chez ces gens qui reconnaissent leurs fautes et les admettent. C'est une leçon aussi pour nous.
Ce n'est pas de votre faute si la torture existe, et si elle recule, c'est grâce à vous. Voilà ce que l'on peut lire sur le site de la CAT, ou encore ceci, la dignité humaine est l'affaire de chacun.